18 juin 1940, lecture à Radio Londres du message du général de Gaulle.
La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique. Oublions l'honneur, livrons le pays à la servitude. Mais le dernier mot est une vie. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas.
Londres, message du 22 juin 1940.
As General de Gaulle, who was Undersecretary for War in Monsieur Paul Reynaud's cabinet.
Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le Général de Gaulle. Général de Gaulle.
Gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions
que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite. Un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or, il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Londres, message du 28 juin 1940.
Généraux, commandants supérieurs, gouverneurs dans l'Empire, mettez-vous en rapport avec moi pour unir nos efforts de résistance et sauver les terres françaises. Malgré les capitulations déjà faites par tant de ceux qui sont responsables de l'honneur du drapeau et de la grandeur de la patrie. La France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes.
Londres, juin 1940.
Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance.
Londres, 8 juillet 1940.
Dans la liquidation momentanée de la force française qui fait suite à la capitulation, un épisode particulièrement cruel a eu lieu le 3 juillet. Je veux parler, on le comprend, de l'affreuse canonnade d'Oran. J'en parlerai nettement, sans détour, car dans un drame où chaque peuple joue sa vie, il faut que les hommes de cœur aient le courage de voir les choses en face et de les dire avec franchise. Je dirais d'abord ceci. Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur et avec colère que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. Cette douleur, cette colère viennent du plus profond de nous-mêmes. Il n'y a aucune raison de composer avec elles. Et quant à moi, je les exprime ouvertement. Aussi, m'adressant aux Anglais, je les invite à nous épargner et à s'épargner à eux-mêmes toute représentation de cette odieuse tragédie comme un succès naval direct. Ce serait injuste et déplacé. Les navires d'Oran étaient en réalité hors d'état de se battre. Ils se trouvaient au mouillage, sans aucune possibilité de manœuvre ou de dispersion, avec des chefs et des équipages rongés depuis 15 jours par les pires épreuves morales. qu'ils ont laissé aux navires anglais les premières salves, qui, chacun le sait, sont décisives sur mer à de telles distances. Leur destruction n'est pas le résultat d'un combat glorieux. Voilà ce qu'un soldat français déclare aux alliés anglais avec d'autant plus d'honnêteté qu'il éprouve à leur égard plus d'estime en matière navale.
Londres, 13 juillet 1940.
Eh bien, puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber brisée, moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive. Je suis en mesure d'annoncer qu'il existe déjà, sous mes ordres, une force militaire appréciable, capable de combattre à tout instant, sur terre, dans les airs et sur mer. J'ajoute que cette force augmente tous les jours, et je veux que l'on sache de quelle magnifique qualité est la jeunesse française qui a cours si engagée. Il n'y a pas à douter une seconde que cette force ira croissant au fur et à mesure de la guerre. Français, sachez-le, vous avez encore une armée de combat. Si donc le 14 juillet 1940 est un jour de deuil pour la patrie, ce doit être en même temps une journée de sourde espérance. Oui, la victoire sera remportée. Et elle le sera, j'en réponds, avec le concours des armes de la France.
Londres, 30 août 1940.
Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Ainsi, menacé par les convoitises de l'ennemi allemand et italien, placé par l'abominable armistice, dans une situation économique sans issue, tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale est rentré dans la guerre. Cette vaste et vaillante partie des terres françaises a décidé de se défendre et sera défendue. Sans aucun doute, d'autres parties vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre.
Londres, 30 octobre 1941.
L'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre à 4 heures du soir, toute la France sera debout. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant, ni chez nous, ni chez nos amis, ni chez nos ennemis, qui ne comprennent l'immense importance de ce formidable garde à vous. En se dressant tout à l'heure, la tête haute face à l'ennemi, la France va se voir telle qu'elle est, inébranlable, dans sa fraternité. La France, tout entière rassemblée dans les 5 minutes décisives, va montrer
que malgré les outrages, les tortures, les trahisons, en dépit des larmes versées sur ses armées défaites, sa jeunesse prisonnière et ses petits-enfants qui meurent, elle s'apprête pour la vengeance sous ses drapeaux déchirés. Le 31 octobre à 4 heures, la France rentre en ligne avec toute son âme, en attendant qu'elle marche avec toutes ses forces vers la victoire et vers la grandeur. La France avec nous.
Londres, 11 juin 1942.
La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'ont fait ses soldats à Birakeyne. Braves et purs enfants de France qui viennent d'écrire avec leur sang une de ses plus belles pages de gloire. La nation écrasée, trahie, souffletée se rassemble dans la volonté de vaincre comme s'unissent ces combattants des champs de bataille, ces combattants de Saint-Nazaire, ces combattants des groupes d'action intérieure, comme se rejoignent les pensées suprêmes du soldat qui meurt en Libye, du marin coulé à bord du Surcouf, de l'ouvrier qu'on fusille à Paris. Oui, c'est par le combat, dans le combat, pour le combat que se refait l'unité française.
Édimbourg, 23 juin 1942.
Je puis vous dire que la camaraderie de combat nouée sur le champ de bataille d'Abbeville en mai-juin 1940 entre la division cuirassée française que j'avais l'honneur de commander et la brave 51e division écossaise que commandait le général Fortune a eu sa part dans la décision que j'ai prise de continuer à combattre aux côtés des Alliés.
Londres, Albert Hall, 11 novembre 1942.
La France, c'est-à-dire une seule nation, un seul territoire, un seul empire et une seule loi. Français, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré retombe, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Un seul combat pour une seule patrie.
Londres, 1942.
Aucune partie du monde ne montre à la France qui souffre et qui combat une sympathie plus ardente que l'Amérique latine. Aucun témoignage n'est plus précieux à la France dans sa lutte et dans sa misère que celui des peuples du grand continent latin. Une si profonde communauté de sentiments vient d'abord d'une longue et chère parenté d'idéal. Vos âmes et les nôtres boivent aux mêmes sources d'inspiration. La chrétienté, les droits de l'homme, le souci de sauvegarder l'individu au milieu de la société moderne, voilà de quoi, vous et nous, nous sommes moralement nourris. Quant à nos esprits, une culture commune les apparente étroitement. Intellectuellement parlant, un latin d'Amérique est chez lui, sur les terres françaises. Un Français n'est aucunement dépaysé sur votre sol. Enfin,
Il n'est point d'intérêt qui nous oppose ou même nous divise, bien au contraire. Tout ce qui contribue à la grandeur et à la liberté des nations sud-américaines est favorable à mon pays. La réciproque est aussi vraie. Votre continent, comme l'Europe, ne peut trouver sa paix et son progrès que dans cet équilibre libéral de l'univers qui fut et qui demeure, au prix de beaucoup de sang et de beaucoup de larmes, le but séculaire de la France. Voilà pourquoi ce sursaut de la fierté, de l'indépendance, de la grandeur française, d'où la France combattante a surgi au moment du désastre et qui l'anime encore aujourd'hui, a trouvé chez les peuples de l'Amérique latine un écho exceptionnel. Ces peuples ont compris d'instinct que l'âme éternelle de la France s'exprimait par le courage et la vertu des nouveaux volontaires de la liberté qui repoussaient le joug de l'ennemi, faisaient confiance à la droiture de leurs alliés et qui, par-dessus tout, voulaient que leur exemple et leur sacrifice entraînassent leur patrie vers la rénovation.
Alger, 24 décembre 1943.
Devant l'étoile de la victoire qui brille maintenant à l'horizon français, française, unissons-nous pour les efforts suprêmes et pour les suprêmes douleurs, l'ennemi. L'ennemi qui recule, l'ennemi dont la nation ne sépare pas les quelques traîtres qui le servent, voilà qui nous devons maudire, attaquer, détruire. Mais ce soir de Noël, que chacun de nous pense aux autres Français et aux autres Françaises qui, comme lui, souffrent pour la France, luttent pour la France, espèrent en la France, qu'il y pense amicalement, fraternellement, que chacun de nous porte son âme vers nos soldats, nos marins, nos aviateurs, aux prises avec l'Allemand sur le sol d'Italie, sur toutes les mers du monde, dans les ciels de Méditerranée, de Russie, d'Angleterre, ou qui s'apprêtent à gagner à leur tour les champs de bataille, vers nos combattants de France qui luttent comme ils peuvent, tant qu'ils peuvent, sous le joug de l'ennemi et de ses collaborateurs, vers nos garçons prisonniers et déportés qui se rongent de fureur là où l'Allemand les détient. Que chacun de nous lève son cœur vers nos jeunes gens, nos jeunes filles humiliées, nos petits-enfants malheureux, vers les mamans françaises que l'angoisse ne quitte pas. Ces soldats, ces combattants, ces jeunes et ces vieux, tous, ils sont notre peuple, le fier, le brave, le grand peuple français dont nous sommes. Qu'importe, dans le drame présent, nos divergences et nos partis, estimons-nous, aidons-nous, aimons-nous. D'abord, nous le méritons. Et puis, pour refaire ensemble la chère, grande et libre France, il nous faut, oui, il nous faut marcher la main dans la main.
Brazzaville, 30 janvier 1944.
Parmi les puissances impériales, aucune puissance impériale plus que la France ne peut sentir cet appel. Aucune ne sent la nécessité de s'inspirer plus profondément des leçons des événements pour engager sur les chemins des temps nouveaux les 60 millions d'hommes qui sont liés au sort de ces 42 millions d'enfants, aucune puissance, dis-je, plus que la France elle-même. En premier lieu, et tout simplement, parce qu'elle est la France, c'est-à-dire la nation dont le génie est comme destiné à élever pas à pas les hommes vers les sommets de la dignité et de la fraternité, où tous pourront s'unir un jour, et aussi parce que dans l'extrémité où la France s'est trouvée refoulée par une défaite du moment dans la métropole, elle a trouvé dans ses territoires d'outre-mer le refuge, le recours et maintenant la base de départ de sa libération, et que cela a créé entre elle-même et son empire un lien définitif. Et enfin, pour cette raison, que tirant à mesure du drame la conclusion qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement, les chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. C'est-à-dire que la France veuille poursuivre sa tâche outre-mer en enfermant ses territoires dans des barrières qui les isoleraient du monde, et en particulier du reste des contrées africaines. Ah, certes, non. Nous croyons que pour ce qui concerne la vie du monde de demain, l'autarcie ne sera pour personne ni souhaitable, ni même possible. Nous croyons que, au point de vue du développement des richesses et au point de vue des grandes communications, le continent africain forme dans une large mesure un tout. Mais nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale à l'ombre de notre drapeau ne devaient pas en profiter moralement et matériellement, si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour